Radio Prague International diffuse cet automne de nombreux entretiens et reportages consacrés à la révolution de velours de 1989. Alors que le pays se prépare à commémorer ce dimanche 17 novembre le 30e anniversaire de la Sametová revoluce, c'est comme ça qu'on dit révolution de velours en tchèque, eh bien Radio Prague International vous propose une émission spéciale avec plusieurs de ces témoignages enregistrés dans leur grande majorité en français. Pas facile de faire le tri dans la masse de récits passionnants sur cette époque. Honneur aux dames pour commencer, avec plusieurs d'entre elles qui étaient de jeunes filles à l'époque et dont certaines étaient sur l'avenue nationale, Národní třída, lorsque les forces de l'ordre sont violemment intervenues pour disperser la manifestation étudiante du 17 novembre 89. C'est le cas de l'écrivaine Anežka Charvatová au micro de Magdalena Hrozinková.
Et comment fêtez-vous aujourd'hui le 17 novembre?
Pour moi, c'est l'unique fête nationale que je fête vraiment. C'est l'unique, si je ne parle pas du Noël et des Pâques, c'est une autre chose, c'est des fêtes chrétiennes. Mais comme fête nationale, c'est l'unique fête qui m'appartient, qui est en moi. Donc toujours, je vois les copains avec lesquels on a assisté à la manifestation du 17 novembre, où on répète le trajet qu'on a fait, où on va boire un coup ensemble, où on se retrouve chez quelqu'un pour faire la fête chez quelqu'un. Mais on se voit toujours et... Comme je dis, c'est notre fête, on est très contents. J'ai terminé mes études en 88, mais j'ai pu continuer à la faculté parce que j'ai fait le remplacement d'une collègue en congé de maternité pour donner des classes de la littérature espagnole. Donc quand le 17 novembre, c'était un vendredi, on est allé manifester, j'y suis allé avec mes copains de la fac et aussi avec mes collègues de la fac. Et il faut dire que c'était une expérience formidable parce qu'on était tellement nombreux que déjà le 17 novembre, je sais pas, vers 6 heures du soir, quand il faisait absolument noir, et on s'est retourné, on voyait la foule des gens. Alors avec mes amis, on se disait, ça y est, c'est terminé, aujourd'hui ça change, ça ne peut pas durer. Et c'est vrai que ça a changé rapidement. Et pour nous, pour ma génération...
Vous aviez 24 ans en 89.
Oui, j'avais 24 ans. Et tout d'un coup, toutes les portes, toutes les fenêtres s'étaient ouvertes. Et on a pu voyager, mais c'est venu après. Mais surtout déjà en novembre, tout d'un coup, on pouvait parler avec les étrangers parce qu'on avait très peu de possibilités de parler avec les Français vivants, sauf quelques amis qui venaient nous voir, mais il n'y en avait pas tellement. Il y avait aussi des philosophes français qui donnaient des cours de philosophie dans des appartements privés. C'est vrai que des fois, j'assistais à cela. Mais maintenant, une foule de visitants, de journalistes, de philosophes, et on a pu expliquer ce qui se passe, on a pu faire des traductions, des interprètes. Par exemple, avec un ami, on a assisté à une conférence d'une des élèves de Jean-Paul Sartre. Et on lui faisait la traduction consécutive. Donc pour nous, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Présente également à la manifestation du 17 novembre 1989, la photographe Dana Kindrova, elle est au micro d'Anna Kubišta.
Naturellement, j'étais à Prague et j'ai passé toute la marche qu'on a fait ce jour-là avec ma mère et on est fini à l'avenue Národní et moi j'ai reçu seulement une frappation.
Et votre mère?
Non, non. On a fait le visage qu'on est très triste et, parce que ma mère, elle avait presque 60 ans, alors ça passait, mais moi j'ai reçu.
Vous étiez jeune et...
Non, pas tellement, mais quand même.
Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez entendu parler j'imagine que c'était un peu le bouche à oreille. Comment est-ce que vous êtes retrouvée justement à cette manifestation?
Parce que moi, j'ai photographié déjà les manifestations en 88, parce que ça a commencé à 88. Pour la première fois, on m'a pris la pellicule quand la République avait 70 ans. C'était au mois d'octobre.
28 octobre. octobre 1988.
Oui, alors on m'a pris toute la pellicule et après j'ai participé à toutes les démonstrations et on savait très bien que le 17 c'est très important, alors on est allé là-bas.
Le 17 novembre 89, les étudiants marchaient en mémoire de l'étudiant Jan Opletal, tué par les nazis 50 ans plus tôt, le 11 novembre 1939. La journaliste et écrivaine Magdalena Platsova était également dans le cortège en ce jour du 17 novembre 89.
Le 17 novembre, c'est un souvenir de trauma total. J'avais vraiment traumatisme. J'avais vraiment très très peur. Et en fait, quand j'écris sur ça, j'ai revécu cette peur. Oui, j'avais peur pour ma vie, quoi. C'était pas parce que dans ce moment-là, ça avait vraiment l'air très très grave. C'était très violent. On pouvait pas s'échapper. Et il y avait ces grands hommes armés qui nous sont battus, quoi. Alors j'avais peur. Et je suis pas très costaud dans ce sens. Je panique. Je perds de violence physique, quoi. Alors, c'était vraiment peur.
Vous étiez seule?
J'étais seule, mais j'ai retrouvé une copine là avec son papa, qui à la fin, en fait, quand les polices ils ont fait une espèce de petite comment ça se dit, ulička,
petit corridor.
Corridor où on pouvait échapper, mais ils vous sont battus à la même temps, mais vraiment dur
à la matraque.
Alors je pouvais jamais y aller, j'avais tellement peur. Mais ce papa de ma copine, il nous a pris tous les deux et il nous a tiré dehors. Il nous a tiré, il a peut-être reçu les coups au lieu de nous. Mais je me souviens, j'étais à moitié inconsciente, je sais pas, j'avais tellement peur. Je me souviens juste qu'il nous a amené, qu'il nous a tiré de cette piège.
Il y a eu ensuite la rumeur d'un étudiant tué occasion.
Ouais. Schmitt. Martin Schmitt, ouais. Oui, c'était une rumeur qui a en fait déclenché la révolution, je pense, parce que ça, c'était les limites. Et les étudiants, et puis les acteurs aussi, les gens du théâtre, ils ont commencé la grève à cause de ça, je pense.
Vous souvenez-vous du moment où vous avez entendu cette rumeur?
Oui, j'étais tellement... Et c'est même dans mon journal, en fait, c'est une espèce d'exclamation, il nous tue, c'est le mythe, c'est the end, c'est la fin, quoi, il faut faire quelque chose. Je pense que c'était ça, la rumeur qui était très utile. Ouais. Je ne sais pas qui a... Mais il est vrai qu'il y avait des gens qui étaient en hôpital avec les... Un hôpital avec les blessures graves de la tête, il y avait des gens qui pouvaient être en danger de mort. Alors, c'était pas quelque chose vraiment fabriqué.
C'était une fake news quand même.
C'était une fake news, mais oui. Mais c'est sûr que ça a beaucoup aidé à ce moment-là.
Schmitt a été battu par plusieurs parachutistes, 3 ou 4. Je ne sais pas exactement, mais nous avons un témoignage d'un témoin qui le suivait de près et qui était son ami depuis leur enfance. Ils ont si violemment donné...
En fait, c'était mon père qui a fait savoir au monde qu'il y a un étudiant mort, ce qui n'était pas vrai, mais lui, il a pensé que c'était vrai. Et donc, ça a un peu déclenché les grands manifs en 89.
De Martin Schmitt. Change la situation en Tchécoslovaquie. Il n'est plus possible que la direction du Parti communiste et de l'État reste dans leur poste.
Je m'appelle Sacha Ulova, j'ai 42 ans, 4 enfants, je suis journaliste tchèque.
Vous aviez 12 ans en 1989. Qu'est-ce qui vous revient à l'esprit quand on parle de novembre 89?
Alors, moi j'ai grandi dans une famille qui a été opposée au régime, donc la révolution en 89, je l'ai vécue très fortement, et j'étais au manif de novembre. Et après aussi au grand manif, après, quand tout d'un coup il y avait beaucoup de monde qui est venu, les gens qui ne venaient pas avant, c'était grand. C'était des émotions très fortes. Je sentais un sentiment très positif dans la foule, donc je n'étais pas effrayée du tout.
Est-ce qu'il y a un moment particulier de ces grands rassemblements qui vous a marqué ?
Moi, le moment particulier qui me reste, ce n'est pas directement dans la manif, mais c'était le lundi, donc 17, c'était vendredi 18, 19, lundi 20, le matin. On habitait pas loin de la place Venceslas et tout d'un coup j'entends un bruit dans les rues et on regarde par la fenêtre et on voit des foules de gens qui vont à la place Venceslas et c'est ça le moment où j'ai compris que c'est définitif, le régime c'est la fin du régime et là j'ai pleuré, j'ai senti, encore maintenant quand je le raconte, je sens je tremble un petit peu et puis je sens des émotions fortes. C'était parce que moi, j'ai grandi dans ce régime et je ne croyais pas que ça va finir. Mes parents, par exemple, ils voyaient plus loin. Mais moi, comme j'ai grandi dedans, je pensais que je vais devenir dissidente, que je ne vais pas étudier des écoles. Je prenais ça comme naturel. Et là, c'était le moment où j'ai compris que je pourrais voyager, que je pourrais étudier ce que je voudrais, que je pourrais vivre une vie libre.
La plus célèbre des actrices françaises à Prague, Chantal Poulain, était elle aussi dans les manifestations de 89. Arrivée une dizaine d'années plus tôt, elle avait rejoint la Tchécoslovaquie, elle y avait rejoint l'acteur Bolek Polivka, qui allait devenir son mari et le père de son fils Vladimir.
Ah oui, alors là, c'était absolument génial, parce que plusieurs années avant, je disais, il va se passer quelque chose dans ce pays, c'est pas possible. C'est comme si... comme si je l'avais sous la peau, je me disais, mais ça va exploser. Et c'est vrai que beaucoup, et même Bolek, tu comprends rien du tout. Alors ça peut pas, on n'est pas des Français, on n'est pas comme les Français, il n'y a pas de révolution, c'est impossible. Oui, quelques années plus tard, c'est arrivé, et j'ai remercié le ciel que ce soit arrivé en 89, parce qu'est né Vladimir, et que moi, je me disais, j'ai passé ma vie à aller chez le directeur de l'école, me battre pour certaines choses. Mon éducation sera exactement à l'opposé de ce qu'est. Là, j'étais. Je me disais, comment je vais faire ? Et est arrivée la révolution, Vladimir est né. L'année de la Révolution, et en plus de ça, il est né le 5 juillet, qui l'année d'après, le 5 juillet, a été présenté, enfin, est rentré en fonction, Václav Havel, comme président de la République, enfin, de la Tchécoslovaquie. Et ça a été pour moi, je sais qu'on était en Italie, et ça bougeait, hein, ou ça faisait déjà pas mal de temps que ça bougeait. Et Vladimir quatre mois. Et on était en Italie. Parce que là, Bolek faisait un spectacle, etc. Moi, j'ai pris Vladimir. Et à un moment donné, Bolek m'a dit, on rentre. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, la révolution. Donc, on a pris tous nos bagages et on est parti. On est venu à Prague. Et je sais que moi, j'ai toujours porté Vladimir contre moi, comme ça. Et c'est la seule fois, vraiment, où j'ai utilisé une poussette. C'est qu'on était du matin au soir dans les rues et on allait le soir jusqu'à sans fin... sur la scène, parler de ça. Après, on terminait à Zabradli, où là, c'était la fête. Et il y avait le Potio qui était là avec nous et qui a vécu, en fait, Vladimir a vécu toute la révolution dans sa poussette. Et nous, on était... Mais c'était fascinant. C'était... Ça devait se passer. Et moi, mais au fond de moi, je le savais. J'étais certaine que ça allait exploser.
Chantal Poulain, au micro de Guillaume Narguet, l'explosion a effectivement eu lieu en novembre, une semaine après la chute du mur de Berlin. Dans les manifestations à Prague, ce sont quelques-uns des grands noms de la dissidence qui se succèdent à la tribune, à commencer par Václav Havel, évidemment. Il y a des artistes aussi, et même des sportifs, comme nous le raconte Guillaume Narguet.
Chci vás pozdravit jménem všech hráčů Sparty.
Je tiens à vous saluer au nom de tous les joueurs du Sparta, vous remercier d'avoir soutenu l'équipe nationale pendant les qualifications pour la Coupe du Monde.
Poděkovat za to, jak se nám drželi palce v kvalifikaci na mistrovství světa do Itálie.
C'est à notre tour maintenant de croiser les doigts et de vous soutenir, vous tous, ici présents, tous les étudiants, les ouvriers et toute notre nation. Merci.
Držíme palce my vám, všem studentům, dělníkům a celé naší vlasti. Děkujeme.
Je peux dire, c'est déjà il y a longtemps, c'est 20 ans que la mémoire que j'ai eue, j'ai jamais oublié parce que c'était à cette époque, ambiance entre les gens ici à Prague, c'était quelque chose que ça oublie jamais parce que tout le monde était gentil entre eux. Il y a si vous entrez dans les bus ou dans les tramways, tout le monde était positif. Les gens, ils ont rigolé, ils étaient. En ce moment, cette période, c'était vraiment quelque chose que jamais vu avant et jamais vu après.
Ivan Hašek, qui nous avait gentiment accueillis il y a quelques années de cela, dans son bureau de président de la Fédération tchèque de football, avait évoqué les siens de souvenirs avec un plaisir sincère, ravi aussi de pouvoir parler en français.
Cette révolution, comment ça se passe, c'était vraiment intelligemment. Il y a tout le monde qui ça se finit le régime vraiment comme il faut. Il y a sens quelqu'un qui était mort, au sens de gens qui s'étaient fanatisme et tout. Ça se passe vraiment tranquillement et c'est ça que je suis fier de ça, qu'on est capable de changer le régime comme ça.
Před letošním 21. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé své srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes.
Ivan Hašek le reconnaît volontiers. Lorsqu'en cette froide journée de novembre, il se retrouve devant la foule réunie sur la place Venceslas, invité à prendre la parole du haut d'un balcon aux côtés de Václav Havel et Alexandre Dubček, il n'en mène pas bien large.
Écoutez, je ne suis pas le révolutionnaire, j'étais le capitaine, mais je ne suis pas quelqu'un très très courageux pour entrer au place Venceslas et parler devant presque 800 000 spectateurs. J'ai eu peur, c'est moi que je vais aller là-bas, mais ça se passe comme ça. Je suis allé au place Venceslas comme chaque jour manifester. Dans un moment, j'ai entendu dans les radios que je dois venir là-bas et je suis arrivé. Et j'étais un peu surpris parce qu'il y a des gens qui étaient autour de moi, c'était Monsieur Havel, Monsieur Dubček, Věra Čáslavská et tous les monde qui ont fait la révolution. Et en ce moment, j'étais entre eux. J'ai eu peur, mais quand je serrais le main avec Monsieur Dubček et Monsieur Havel qui m'ont dit, allez, vous allez en de première parler devant les gens, j'ai dit ok, j'étais pas prêt, j'ai rien prévu avant, mais j'ai dit quelques mots, surtout j'ai félicité les gens qui sont capables de se manifester comme ça, et que nous, les joueurs de foot, on est derrière tout le monde, derrière les gens, que ça se change maintenant, il y a des possibilités de changer de régime, et que si on est tous ensemble, on peut gagner. C'était pour moi un des plus grands moments dans ma vie.
Také fotbalisté pražské Sparty se připojili k dnešní generální stávce. Vyšli do ulic v čele s kapitánem Ivanem Haškem.
Ce sont alors tous les joueurs du Sparta Prague qui se joignent à la grève générale. En tant que capitaine du grand club protégé par le régime communiste, Ivan Hašek affirme que si lui et ses coéquipiers n'ont pas hésité à participer aux manifestations à l'issue encore incertaine, ils n'avaient pourtant rien de héros.
Tous les joueurs au Sparta, ils étaient avec moi chaque jour, manifestaient contre le régime. Seulement, bien sûr que j'ai eu peur parce que j'ai ma femme et deux enfants que c'était un peu dangereux. Pour ça, c'est que j'ai eu peur. C'est ça que j'ai dit au départ. Je ne suis pas quelqu'un qui est très, très courageux pour parler de ça. Mais à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était beaucoup plus courageux que moi. Même les joueurs de Dukla, que c'était encore plus difficile pour eux parce que c'était les clubs de l'armée. Qu'ils ont manifesté encore aussi et qu'ils ont toujours de courage. Mais à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus courageux que moi.
Krásný je vzduch, krásnější je moře. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější?
Tchécoslovaquie, le parti communiste sur le point de perdre le monopole du pouvoir. Contacts officiels entre le gouvernement et l'opposition. Nouvelle manifestation monstre ce soir à Prague.
En novembre 89, je suis à Paris. Je travaille à Radio France pour France Culture. Je me souviens qu'on était avec mon frère dans la rue et que...
Michel Fleischmann.
Qu'on avait un petit transistor et qu'on écoutait ce qui se passait. Donc on suivait ça de très très près... Et je pense que l'élément le plus important de cette époque qui me travaillait, c'est comment ça se fait que même en Bulgarie, il y a déjà une révolte contre le régime et en République tchèque, rien ne se fait encore.
Alors vous avez un emploi à la radio, à Radio France. Donc ce mois de novembre 89 arrive le 9 novembre, la chute du mur de Berlin. Est-ce que là vous vous dites je vais aller à Prague dans pas longtemps, vous voyez ça comment?
Oui, évidemment, je voulais j'embêtais entre guillemets la direction de France Culture pour qu'il m'envoie à Prague. Et finalement, on a trouvé une solution qui était assez amusante, qui me plaisait bien. Ils m'ont effectivement envoyé à Prague en tant que entre guillemets journaliste de Radio France pour France Culture pour faire un reportage qu'on a appelé Retour chez soi. On est dans l'action, on répond à des questions, on cherche des informations, on écrit des choses, on parle, etc. Et l'émotion, ça vient au moment où vous y allez. Là, c'était émotif, c'était très émotif, parce que le voyage en voiture que j'ai fait en décembre, de Paris à Prague, le passage de la frontière, était vraiment très très émotif. Et horrible, parce que on passait de quelque chose où il y avait de la lumière, que ce soit la France ou l'Allemagne, et passant REP, on est parti dans une grisaille, dans quelque chose dont on parlait, on voyait les photos, on voyait des reportages, mais quand on le voit de visu, c'est vraiment autre chose. Le côté pays détruit. Pays triste, pays gris, pays dans le brouillard. C'était terrifiant et très émotionnel.
Mais alors ça, c'est décembre seulement.
Ça, c'est décembre. Je ne me souviens pas du jour, mais je sais qu'on pleurait. Parce que c'était vraiment très fort de voir la réalité, de connaître la réalité que moi, je n'avais plus.
Parce que la dernière fois, vous aviez 17 ans, c'était 20 ans avant, c'est ça ?
C'est ça. C'était en 69, j'avais 17 ans. Donc, à 17 ans, vous voyez tout en rose. Donc, c'était vraiment différent. Et puis, je suis allé directement chez ma tante, parce qu'on n'avait pas ailleurs habité. Et là, c'était très bien de retrouver la famille. Non, ce qui était intéressant, c'est ce dont parle aussi Kundera dans un de ses romans. C'est le côté émotionnel. Mais alors, ce qui était intéressant, c'était bon, il y a le côté émotif de se retrouver, et deux, on reprend la conversation comme si on avait 20 ans, ne s'était pas passé. Comme si c'était une parenthèse. Et on s'aperçoit que les gens ne changent pas tant que ça, que ce sont toujours les mêmes personnes. Ils ont peut-être quelques rides, mais c'est tout. Mais ce sentiment de continuité repris au bout de 20 ans...
Vous avez pris votre micro, vous êtes allé bosser directement ?
Ah oui, alors c'était amusant parce que j'avais imaginé donc vraiment de faire un reportage. L'idée c'était donc un retour chez soi. Donc on est allé avec mon frère là où on habitait avant de partir dans le quartier de Vršovice. Alors là c'était intéressant parce qu'on habitait au premier étage. On est rentré dans l'immeuble qui n'a pas changé d'un iota en 20 ans. Exactement le même. L'ascenseur ne marchait pas comme d'habitude. Et on a donc sonné à la porte de l'appartement où on a vécu toute notre enfance. Et là, il y a un monsieur qui nous a ouvert. Et avant même qu'on se présente, il s'est mis à crier « Non, je ne vous le rendrai pas ». On ne comprenait rien du tout. Et ça existe enregistré. « Non, je ne vous le rendrai pas ». Et puis donc, on a compris, il ne nous rendra pas l'appartement. Donc c'était quelqu'un, après on a appris que c'était quelqu'un qui travaillait au niveau du Parti communiste, et donc ils avaient la conscience qu'il y aura un changement et que leur bien-être va être atteint, et ils nous aviraient de manière rocambolesque. J'avais même peur qu'ils ne sortent une arme ou quelque chose. Donc on est sorti de là, complètement étonné, effrayé. Et en même temps, on a pris ça avec un peu d'humour, parce que on savait donc nous-mêmes qu'il y aura un vrai changement, donc on a pu prendre ça avec un peu de zeste d'humour.